Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
avec Eric Salio.
Salut à tous, le Master de Montréal au programme des paris 100% tennis avec 4 rencontres, celle de Benoît Paire, de Benjamin Bonzi, de Gaël Monfils ou encore un duel entre Cameron Norrie et Brandon Nakashima. Christophe Payet, notre expert en paris sportif, est là. Salut Christophe.
Salut Yann, bonjour à tous.
Et Eric Salio est avec nous. Salut Eric.
Salut Eric. Salut à tous.
Bon, messieurs, c'est un zéro pointé hier, mais à votre décharge, il n'y a qu'un seul match qui s'est terminé, c'est celui de la lutte entre les deux meilleures joueuses françaises, Cornet et Garcia. Vous aviez joué Caroline Garcia et finalement, c'est bien Alizé Cornet qui s'est imposé, Christophe.
Oui, effectivement, une victoire en 3 manches. C'est un peu surprenant parce que Caroline Garcia était dans une forme resplendissante, mais bon, c'est vrai qu'elle a changé de continent, elle a changé de surface. J'espère qu'elle va vite s'habituer parce qu'il y a encore des échéances aux États-Unis sur dur.
Ouais, en effet, il y a l'US Open qui arrive, il serait bon de bien jouer, mais voilà, c'est toujours un match particulier hein, entre deux Françaises, Eric.
On l'avait dit hier, le précédent à Banancourt sur gazon, ça s'était joué sur des détails puisque Alizé Cornet s'était procuré une balle de match avant de perdre. Et donc hier soir, dans la nuit, ça a été un match un peu haché puisqu'il a été interrompu à plusieurs reprises. Et c'est vrai qu'avec une manche en poche, Caroline Garcia semblait avoir fait le plus dur. Mais quand il a fallu revenir sur le court quelques heures plus tard, la physionomie du match a changé. Et on se rend compte qu'Alizé Cornet sur dur, c'est du très très costaud. Hein. Souvenez-vous son parcours en Australie. Donc c'est une demi-surprise, j'ai envie de dire. D'autant qu'on sentait bien que Caroline Garcia avait besoin de souffler après... son triptyque de terre battue et puis tout le titre en Pologne qui avait bouffé pas mal d'énergie. J'avais noté qu'elle s'était accordé quelques jours de repos à Dubaï. Faut croire que dès que tu reposes l'organisme, il faut quelques jours pour remettre la machine en route et voilà. Alors c'est embêtant pour elle parce que on l'avait dit hier, elle chasse un statut de tête de série à l'US. Donc là, elle va lundi prochain, je pense qu'elle va être 34, 35 ou 36. Donc il faudra absolument gazer à Cincinnati. Sinon, elle va s'exposer à un tirage au sort peut-être compliqué pour Flushing Meadow. Mais Alizé Cornet, dans le même cas, hein, cette victoire ne lui suffit pas pour être tête de série. Donc, mais elle aura une chance supplémentaire demain. Et je crois qu'elle jouera une cliente, puisque ce sera la gagnante de Kazakhtina Andreescu, hein, si mes
Tout
souvenirs
à fait.
Sont bons.
Si... Ouais.
Sacré à deux en perspective, mais bon, on le sait, c'est une coupe de tête hein, quand elle aussi l'a battue Swiatek. Donc, non, ça va être un match intéressant parce que selon ma théorie, on en parlera tout à l'heure, il faut jouer Andreescu, évidemment.
Oui, bien sûr. Et elle visera sa 500e victoire quand même sur le circuit.
Oui, absolument, il faut en parler, c'est génial. Ouais.
Bah oui.
499 victoires sur le circuit. J'ai pas eu le temps de regarder, mais est-ce que c'est la Marie Pierce on a vu à Mauresmo, à combien elles étaient, je sais pas.
J'essaierai de regarder ça.
Ouais, mais tu sais que je me demande si... Parce qu'Amélie a une carrière assez... Enfin, courte, entre guillemets, mais...
Oui.
Elle a gagné beaucoup. Là, je vais regarder, tiens, pendant que vous présentez le premier match.
Ok, et concernant les autres rencontres, y en a une qui s'est déroulée, mais c'est peut-être presque fini entre Chapovalov et Deminor. Vous aviez joué Deminor, il mène un 7-0 et il y a 3-3 dans le tie-break de la seconde manche. Et ensuite, on attend évidemment les débuts de Manarino Rinderknecht et donc de Andy Murray face à Tyler Fritz. Concernant les matchs du jour, un Français qui... peut-être revient en forme, c'est Benoît Paire, 104e mondial, qui a battu Kudla et Westler, c'était en qualification. Il est opposé quand même, attention, un joueur en forme, c'est Yoshihito Nishioka, le japonais, 54e, finaliste à Washington, battu par Nick Kyrgios. Voilà, il n'est pas favori évidemment, Benoît Paire, mais est-ce qu'il y a des coups à tenter? Christophe, quels sont les codes de cette rencontre?
2,60, la victoire de Benoît Paire, 1,52, la victoire de... Yoshihito Nishioka. Une confrontation, Dubaï 2018, donc ça date, c'était Benoît Paire qui s'était imposé. Alors, c'est vrai que Benoît Paire a gagné 2 matchs de suite en qualif. Est-ce que c'est un déclic? On l'espère pour lui, mais il n'y a aucune garantie avec ce garçon qui a le talent, mais qui a parfois le mental qui ne suit pas. Nishioka, finaliste surprise à Washington, hein, on ne l'attendait pas à pareille fête, il y a deux jours contre Kyrgios. Alors le théorème Salio peut entrer en jeu, puisque deux jours après, bon, et même si le déplacement n'est pas énorme entre Washington et Montréal, je dirais que tout plaide pour Nishioka, parce que bah, 5 victoires et une défaite aux États-Unis, 10 succès en 13 matchs depuis Wimbledon. Bon, c'est vrai que c'était quand même pas mal des challengers sur terre battue au Portugal et en Italie. Étonnante programmation d'ailleurs, mais visiblement ça ne lui a pas empêché de briller sur le ciment nord-américain. Donc la logique, c'est de jouer Nishioka. Mais je veux rattraper mon pari il y a quelques jours, enfin la semaine dernière, avec Père, qui nous avait bien planté. Donc je retente une fois ma chance.
Okay.
Victoire de Benoît Père à 2,60. S'il ne gagne pas, je crois que je ne serais pas prêt de parier sur lui.
Ouais, bon, ça fait longtemps qu'il ne gagne pas et tu continues à parier sur lui, Christophe.
Ben,
bon.
Parce que je me dis que c'est jouable.
Oui, bah, évidemment, mais c'est toujours jouable.
Le joueur est dans ce genre de situation.
Ouais, c'est toujours jouable. Mais voilà, toujours compliqué avec Benoît Pergé.
S'il ne se touche pas, c'est jouable.
Exactement. J'ai vu sur Twitter, Eric, justement, que tu avais parlé de ces victoires contre Coudlet et Wessler. C'est pas rien non plus de gagner contre ces joueurs. Est-ce que toi, tu as envie de lui faire confiance contre Nishioka ?
J'applique mon théorème. Voilà, vous avez la réponse.
Victoire de Claire.
J'applique mon théorème. Et j'ai, alors moi, tu vois, toi, tu as axé ton pari sur Benoît Paire. Moi, je vais vraiment l'axer sur Nishioka. Je pense que le mec est cramé. J'ai vu sa finale contre Kyrgios. Il m'a l'air au bout du rouleau, le pauvre japonais. Est-ce qu'il peut se comprendre, parce qu'il a eu une semaine folle, hein, faut dire les choses, avec des victoires marathon, un tournoi disputé en pleine chaleur. J'ai l'impression, je l'ai vu souvent se baisser au moment de servir, je pense qu'il a les abdos en feu. Alors j'ai une interrogation, j'ai pas la réponse. Apparemment, les organisateurs mettaient à disposition un avion privé pour rallier Chicago, le Canada. Mais est-ce qu'il était seulement réservé aux vainqueurs ? Parce que Kyrgios, sur Instagram, il a remercié une compagnie, et je pense que le directeur du tournoi aussi, pour le petit vol privé qui facilite les choses, parce que je crois qu'il n'y a pas de ligne directe, c'est ce que j'ai lu selon une consoeur canadienne, il n'y a pas de ligne directe entre Chicago et... entre Washington,
Chicago,
pardon.
Eric ? Ah oui.
Non, c'est Washington, pardon. Ouais. Je mélangeais les pinceaux. Entre Washington et Montréal. Donc, si Nishioka a dû prendre un vol donc hier, je pense qu'il va arriver
dans
un état de pression. Il n'y a pas
de ligne entre la capitale des États-Unis
et
Montréal.
Mais je sais pas, faut vérifier. Alors s'il y a des tweetos qui sont habitués, qui vivent en Amérique du Nord. Ah, mais en tout cas, si Nishioka n'a pas bénéficié de l'avion privé, toi, il a dû prendre l'avion le lundi. Pas simple. En plus, hier, il n'a pas pu s'entraîner parce qu'il a plu. Moi, je me dis que il y a un énorme coup à jouer. Il y a un énorme coup à jouer. J'applique mon théorème avec gourmandise.
Et d'ailleurs, la cote n'est pas si élevée que ça.
Mais oui,
c'est seulement
mais bien sûr, bah, ils connaissent mon théorème Salio, bien sûr, les bookmakers.
Bah oui, tu influes sur les cotes.
Ils écoutent.
Et oui, évidemment. Donc, bah déjà un gros coup de tenté pour vous, messieurs, avec la victoire de Benoît Paire. Évidemment, je ne vais pas vous embêter sur un scénario. Hein. Déjà, la cote est belle et le risque est grand.
Non, et puis Benoît rejoue très bien, il resserre très bien, il ne mouille plus entre guillemets au moment de conclure. Et puis, je pense que le style de jeu de Nishioka peut lui convenir, même si bon, Nishioka évidemment va le faire courir. Mais si Benoît sert bien, il a toutes ses chances.
Oui. Bon, en tout cas, victoire de Benoît Paire face à Nishioka. Non, je ne suis pas convaincu. Je pense
que
Nishioka va l'emporter.
Yann Bredov n'est pas convaincu.
Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais rester sur Nishioka. Le théorème ne va pas fonctionner.
Ouais.
Rappelez-vous que contre le jeune Danois Runeux, qui est resté sur 6 défaites consécutives au premier tour, bah, il était bien content de tomber sur Benoît Paire.
Oui, mais ce jour-là, il a joué, il faisait 50 degrés, alors que là, la météo au Canada est encore pas terrible, hein, d'après ce que j'ai lu. Donc, c'est des conditions de jeu qui vont plaire à Benoît.
D'accord. Bon, en tout cas, Benoît Paire, pour vous, vous l'aurez compris, moi, je vais plutôt sur la victoire du Japonais, mais j'espère que le Français va l'emporter. Évidemment, je suis assez chauvin là-dessus.
Ouais.
Bah oui, et oui. On va tenter, justement, pourquoi pas, tiens, une autre victoire française, Benjamin Bonzi, qui reste sur une petite déception à Washington, hein, battu par Eubanks, l'Américain, mais il est opposé à un autre Américain, c'est Francis Tiafoe, 24e mondial. Et là, avantage à Tiafoe au niveau des cotes, Christophe.
Oui, à tous les niveaux en fait. Les cotes, le classement, les confrontations, tout plaide en faveur de Tiafoe qui est à 1,46 et 2,75 Bonzi, deux victoires, deux défaites depuis Wimbledon aux États-Unis. Et puis bah, y a une défaite à Roland-Garros, 7-5, 7-5, 7-6 en faveur de Tiafoe face à Bonzi. Tiafoe, demi-finaliste à Atlanta, quart de finaliste à Washington, il est américain. Même si c'est au Canada, il joue quand même à domicile. Il a 70% de victoire sur les 10 derniers matchs. Je joue Tiafoe 1,46. Mais Bonzi va le gêner, à mon avis. Donc, plus de 22 jeux, on passe à 2,65. Et pourquoi pas le 3-7, sans donner le nom du vainqueur, côté à 2,15.
Ah, quand même, tu vois un match assez serré entre les deux joueurs.
Oui. Quand tu vois le score du match il y a très peu de temps, même si la surface est complètement différente, 7-5, 7-5, 7-6, c'est forcément difficile à briquer.
Voilà. Est-ce que tu vois, toi aussi, un match serré entre ces deux joueurs, Eric ?
Oui, je pense que Benjamin Bonzi, il a les moyens de rivaliser avec Tiafoe, même si Tiafoe, il est vraiment sur son mois préféré, quoi. Il adore cette tournée nord-américaine. Il a joué le tournoi de Washington, qui est de son enfance, puisque son père était gardien du club, d'un club voisin, et donc c'est là qu'il a appris à jouer au tennis, et il est passé tout près du jackpot, hein, parce que 5 balles de match contre Kyrgios, je pense qu'il est en travers de la gorge encore. Donc il est en forme, et je pense qu'il a la rage, parce que cette défaite-là lui a fait très mal, parce qu'il était en capacité, pourquoi pas, d'aller chercher le plus gros titre de sa carrière, donc je pense qu'il va être encore plus dangereux dans un Masters 1000, donc moi je joue l'Américain, ouais. Je joue l'Américain et je jouerai même l'Américain en 2-7.
Et ça c'est côté à 2.
Ok, donc victoire de Tiafoe en 2 manches, côté à 2 pour toi Eric. Et Tiafoe est plutôt en 3, voire plus de 22 jeux, voire le 3-7 sans donner de vainqueur pour toi Christophe. Gaël mon fils, tiens, face à Pedro Martinez, Gaël qui est de retour à la compétition, hein, qui n'a plus joué depuis le 3 mai, battu en 2 manches par Djokovic, c'était à Madrid. Il aurait dû affronter Opelka, mais le géant américain s'est retiré de ce tournoi de Montréal. Bah, place à Pedro Martinez. On ne va pas se cacher que c'est plutôt un bon tirage. Et il est favori, le Français.
C'est une bonne nouvelle.
Bah, oui, c'est une très bonne nouvelle pour Gaël Monfils. Ça se voit au niveau des cotes, Christophe.
Oui, 1,60 Monfils et 2,35 Martinez. Même si la seule confrontation, c'est l'Espagnol qui s'est imposé l'année dernière à Wimbledon. On sait que Gaël Monfils n'a pas vraiment la main verte. C'est son retour, c'est une surface qu'il aime, c'est un continent qu'il aime après 3 mois sans jouer. On l'a dit, c'est plutôt un bon tirage d'avoir un Espagnol spécialiste de terre battue. Je ne suis pas persuadé qu'il soit ravi d'être là d'ailleurs, Pedro Martinez, quand on voit que c'est son premier tournoi aux États-Unis, qu'il a joué en Europe. Et en Europe, ce n'était pas terrible puisqu'il a 7 victoires sur les 19 matchs qu'il a disputés sur le vieux continent. J'espère que Gaël Monfils va vite revenir au niveau qui lui avait permis de briller en tout début d'année. En janvier, il avait gagné le premier tournoi d'Adélaïde. Il avait été en quart à l'Open d'Australie. Ce qui prouve que le ciment lui convient à merveille, même si ce n'est pas le même continent. Donc je joue Monfils à 1,60. Mais on peut imaginer un Gaël Monfils un petit peu en rodage au début. Donc pourquoi pas perdre le premier. Donc je jouerai Monfils et plus de 21 jeux dans le match, c'est coté à 2,70.
Ouais, ça peut être un début compliqué pour Gaël Monfils. Eric, il était touché au pied, c'est ça, il a retapé la balle un peu avec Stefanos Tsitsipas. Bon, on espère le retrouver à son meilleur niveau. Est-ce que tu crois aujourd'hui face à Pedro Martinez? C'est plutôt un bon tirage, on le disait, hein.
Oui, parce que effectivement, s'il avait dû jouer Opelka, il n'aurait pas pu installer son tennis, ça aurait été un match de ball trap. Même si j'ai en mémoire de bonnes perfs de Gaël face à Isner, donc il aime bien jouer ce genre de mec, mais pour une reprise, tu as besoin de retrouver des repères, de taper dans la balle, de faire des longs rallyes, de solliciter ton corps. Bon, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu depuis ses problèmes au pied. On rappelle qu'il avait un souci à l'épine calcanéenne, et c'est vrai que c'est le genre de truc qui demande du temps. Donc voilà, il a pris le temps puisque on l'a dit, il n'a pas joué depuis Madrid, donc depuis le 3 mai. Après, il a forfait à Rome, et puis juste avant Roland, il annonce que ce sera forfait aussi. Donc il a pris le temps de se soigner. J'ai l'impression quand même qu'il n'a pas beaucoup d'entraînement derrière lui, parce que, bon, vous allez me dire, on reste fier aux réseaux sociaux, mais il n'a pas montré beaucoup de périodes d'entraînement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a tapé à Monte-Carlo, chez Mouratoglou, et à un moment, il a quand même tweeté, voilà, une bonne séance d'entraînement, comme vous avez entendu, ça faisait longtemps que je n'avais pas frappé aussi bien dans la balle. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. De toute façon, il faut être optimiste, hein. On a besoin de lui avant l'US Open. Le timing est correct, hein, parce que bon, on est à 3 semaines du coup d'envoi de Flushing, mais bon, je pense qu'en 3 semaines, il peut se passer pas mal de choses. Effectivement, on ne peut peut-être pas attendre de miracles ici à Montréal, parce que bah, il est peut-être de série 17, donc derrière, il va vite jouer des cadors. Mais Martinez, c'est un mec qui a une bonne balle, j'ai envie de dire. Il va pouvoir se régler. Moi, j'ai envie d'y croire, parce que il va jouer à l'envie, quoi. Il a tellement envie de bouffer la balle que je ne le vois pas passer à côté.
Ok.
Je joue la Monf.
La Monf, donc, à 1,60, c'est ça. Est-ce que tu veux jouer un scénario? Est-ce que, justement, tu le vois démarrer le match
C'est dur à dire. T'as les deux scénarios. Soit, ouais. Soit il rentre un peu en douceur pour se tester, et ça peut mal se passer. Soit il a envie de bouffer la balle tout de suite, et intrinsèquement il est supérieur, un mec comme Martinez, on est d'accord.
Bah oui, bien sûr.
Et à ce moment-là, ça peut très bien se passer. Donc, j'avoue que là, je ne sais pas sur quel pied danser.
Ok, bon, on peut se contenter de cette cote. Donc, à mettre, pourquoi pas, dans un combiné, c'est pas mal pour gonfler le tout. Vous êtes d'accord? Donc, victoire de Gaël Monfils contre Pedro Martinez. Dernier match que je vous propose, Cameron Norrie face à Brandon Nakashima, l'Américain 63e mondial. Le Britannique est en forme, hein, finaliste à Los Cabos, demi-finaliste à Wimbledon, et forcément, bah, il part avec l'avantage au niveau des cotes, Christophe.
Oui, effectivement, 1,51 Norrie, 2,60 Nakashima. Norrie mène 2-1 dans les confrontations. Il avait perdu la première, c'était à Delray Beach en 2020, et puis finale de Los Cabos l'an dernier, 6-2-6-2 en faveur de Cameron Norrie. Il se retrouve à Eastbourne sur gazon cette année, 6-4-6-2 en faveur de Cameron Norrie, qui a visiblement vraiment pris l'ascendant sur son adversaire du jour. Effectivement, tu l'as dit, un finaliste
à Los Cabos
face à Medvedev. 80% de victoire sur les 10 derniers, hein, cette défaite Djokovic-Medvedev. Il a gagné Lyon un peu plus tôt dans la saison. Il a 15 victoires en 20 matchs. Norrie est en grande forme et je pense que ça devrait suffire pour battre un Nakashima qui reste sur 2 quarts de finale à Atlanta et Los Cabos, qui n'a pas beaucoup perdu depuis Roland-Garros, puisqu'il a 6 défaites en 20 matchs, mais les deux dernières fois qu'il a joué Norrie, il a pris une tôle, donc victoire du Britannique.
Ouais, on peut s'appuyer sur ces confrontations, Eric, pour parier sur cette rencontre, donc avec la victoire de Cameron Norrie.
Bah, pour l'instant, Norrie, il fait tout mieux que Nakashima, quoi. C'est le constat qu'on peut dresser. Et c'est un mec qui prend vraiment confiance en lui. Son parcours à Wimbledon lui a fait le plus grand bien. Il a déjà, en termes de popularité, ça a été une quinzaine fantastique, parce que voilà, les Britanniques ont appris à le connaître, puisqu'on connaît son parcours un peu lié à la trajectoire professionnelle de ses parents. Donc, même à Los Cabos, il a été bon, parce que battre Jaliasim, bah, ça reste une belle perf. Bon, il s'est cassé les dents sur Medvedev, mais j'ai l'impression que Medvedev nous prépare un sacré été. Donc, pour moi, c'est une base, Norrie. C'est une base, parce que Nakashima fait déjà de bien belles choses, mais je pense qu'il n'est pas de taille à s'attaquer à un mec comme Norrie, qui physiquement est déjà... on en parlera souvent, je crois, cet été, c'est un monstre, quoi. C'est un monstre de travail. Il est extrêmement dur à déborder. Il a réponse à tout, quasiment, sauf face au tout meilleur. Mais sinon, il craint personne et il va s'installer dans le top 10, j'en suis convaincu.
Il n'est pas loin, il est 11e mondial.
Ouais. On est d'accord sur tout.
Ouais, c'est ça.
Et la cote totale est à 9-17.
Ah, bah voilà, joli petit combiné.
On a trois favoris et un outsider, Benoît Paire.
Ouais, c'est ça.
Évidemment, ouais. Je vous conseille quand même de faire un système autorisant une erreur
oui.
Si vous jouez les quatre.
Bah oui, vaut mieux. Quand on joue Benoît Paire, il vaut mieux faire ce système.
Erreurs. T'as un système qui autorise 3 erreurs.
Ouais, c'est ça, donc je rappelle sur qui vous misez, messieurs. Benoît Paire, donc, face à Nishioka, Tiafoe contre Benjamin Bonzi, Gaël Monfils contre Pedro Martinez et donc Cameron Norrie contre Brandon Nakashima. Voilà pour votre combiné, on verra.
Alors,
si...
On peut être quand même a priori confiant, Eric.
A priori, oui.
Ces matchs-là,
tu sais, on est toujours confiant et puis après, on prend des claques dans la gueule à chaque fois. Donc...
Ça peut arriver.
Non, mais ce qu'on peut faire,
mais
sinon...
je crois beaucoup à mon théorème. Et alors, si je peux vous donner un autre conseil, non, je l'ai déjà dit, oui. Je vous dis que je vous conseille de jouer Andreescu face à Kazakhtina parce qu'elle aussi va devoir digérer sa belle victoire à San José. Et Kazakhtina, en plus, va devoir jouer...
Mais tu ne l'appliques pas pour Norrie, en revanche.
Non, parce que Norrie, c'était samedi, la finale.
Et oui.
C'est vrai, tu as raison.
Oui, un jour de repos en
plus. Je t'attendais là-dessus.
Bam, crac, il a surgi.
Bonne réponse.
Mais ce qu'on peut faire, sinon, messieurs, sur ce combiné, c'est en faire deux, en fait. On peut faire Norrie, Monfils, Tiafoe, Père, et changer Père pour mettre Nishioka.
Ouais.
Et voilà, on sera gagnant.
Absolument, oui.
Si jamais
absolument.
C'est le match décisif. Pour,
c'est pas idiot, ça nous fait des belles cotes quoi qu'il arrive.
Jouer le match de paire et de jouer les autres.
Oui, aussi, oui. Bon, on peut faire plein de trucs. Ou alors enlever on enlève le match de paire et on est tranquille. Bon.
On a une cote à pratiquement 4 avec mon
fils.
Et
on peut remettre peut-être du Fritz aussi. Fritz Murray, je pense que ça
va bien sûr.
Passer.
Oui. Ouais. Il y a toujours vos paris, évidemment, d'hier.
Si on est audacieux, on remet Manarino, parce que Manarino, il est fort sur
dur
aussi. Mais bon.
Contre une Tartache. Bon, voilà. On a fait le tour, messieurs, des rencontres du jour. Benoît Paire, Tiafoe, mon fils Norrie, voilà vos paris pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain, évidemment, pour parier à nouveau sur ces tournois de Montréal et de Toronto. Merci Christophe, merci Eric. À très vite. Salut à vous deux, salut à tous.